Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel pour l'émission Renaissance avec ou sans S, en compagnie de Philippe Frétinier qui continue à nous parler de ce moment historique. Bonjour Philippe Frétinier. Alors, vous nous avez parlé, je vais juste faire une petite synthèse rapide d'un certain nombre de choses pour faire un point d'étape comme ça, mais vous nous avez notamment dit que Renaissance, c'était une notion qui existait en gros depuis Michelet, c'est-à-dire bien après la Renaissance, évidemment. Et que cette Renaissance, vous la remettiez en cause dans le fait qu'elle apparaissait partout en même temps, à la même époque. Et notamment, pourtant, Michelet faisait reposer sa définition sur des bouleversements symboliques et historiques importants qui ont concerné tout l'Occident. Les grandes découvertes, la naissance de l'imprimerie, tout ça au XVe siècle. Et puis aussi, autour de ce que pouvait dire Pétrarque, c'est le moment de retourner à la culture classique. Voilà. Vous nous avez parlé de tout ça. Pour autant, vous maintenez quand même que le moment de la Renaissance n'est pas un moment à proprement parler, qu'il y a plutôt des moments, des renaissances, et notamment, par exemple, selon les types d'art, des lieux dans lesquels ça se passe et pas forcément partout au même moment.
Quand on parle Renaissance, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la Renaissance italienne. Parce qu'on a été un peu bercé par ça, sans doute par des professeurs pas toujours au fait de l'histoire de l'art. Alors déjà, à l'intérieur de la Renaissance italienne, de façon très large, il y a plusieurs renaissances. Il y a une première Renaissance, vraiment naissance, qu'on pourrait associer à Donatello, par exemple, donc sculpteur, peintre, mais surtout sculpteur florentin. Et puis dans le sillage, tous les grands, que ce soit évidemment Vinci, Michel-Ange, Raphaël. Et puis il y a d'autres moments, un autre moment encore d'élan de la Renaissance après toutes ces grandes figures. D'ailleurs, André Chastel ne s'y était pas trompé, puisqu'il parlait de différentes renaissances, la renaissance méridionale, la renaissance de ce qu'il a appelé le temps des génies. Donc voilà, il y a plusieurs moments à l'intérieur de la renaissance, au sens où les gens l'entendent habituellement. Mais en fait, il y a bien plus de continuum. Vous connaissez mon idée, j'associe toujours continuum et discontinuité, c'est-à-dire qu'il y a les deux mouvements en même temps, c'est-à-dire que le continuum, on comprend bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que des choses se succèdent d'une façon finalement relativement chronologique et logique, dans un rapport finalement de maître à disciple, et donc dans une continuité historique avec des héritages qui sont recueillis et développés. Et puis aussi, d'un seul coup, il y a l'irruption de personnalités qui tranchent très nettement avec leur époque et qui ouvrent une nouvelle ère. Je vais prendre un exemple très simple que je vais transposer en musique et dans d'autres époques, mais on voit bien comment Jean-Sébastien Bach s'inscrit dans la lignée de ce qu'on appelle un peu trop vite la musique baroque. Et puis on voit très bien comment Mozart ouvre une nouvelle ère en utilisant la forme symphonie d'une manière tout à fait nouvelle, en écrivant des opéras qui tranchent beaucoup avec ce qui s'est fait avant, surtout les opéras de la fin de sa vie, notamment La Flûte enchantée, par exemple. Donc, vous voyez, donc, on peut dire que voilà, Bach clôt une ère et Mozart en ouvre une radicalement différente. Donc il y a aussi comme ça des personnalités ou des faits historiques qui font que d'un seul coup, des situations historiques qui font que d'un seul coup, on se met à regarder les choses autrement. C'est d'ailleurs le cas avec les grandes découvertes. Mais tout ça s'inscrit quand même dans un grand continuum où les choses ont mûri au fil du temps et depuis plus longtemps qu'on ne le dit. Par exemple, dans la sculpture, Parce qu'il y a aussi l'importance, comme vous l'avez souligné en exergue, des différents centres géographiques dans lesquels il se passe quelque chose de décisif. Alors ça, on le voit, les contemporains ne le voient pas forcément tout de suite, sauf quelques esprits très, très affûtés, mais c'est avec le recul qu'on voit qu'un événement important à un endroit va avoir un rôle très important dans la durée et dans plusieurs endroits. Ensuite, ça va diffuser.
Oui, en effet, pour s'en apercevoir, il faut qu'il y ait eu cette durée.
Voilà, absolument. Et donc, par exemple, je parlerai de la sculpture, l'influence de Pise, dès le XIIe siècle, c'est-à-dire au Moyen Âge.
Hein. Oui, 300 ans plus tôt voilà, que la Renaissance, voilà. Telle qu'on la date habituellement.
Donc, les sculpteurs pisans, ils ont deux solutions pour travailler et pour se fournir en matière première, soit les carrières de Carrare, soit le réemploi de marbres qui viennent de l'Antiquité. Et ces marbres, souvent des sarcophages, des tombeaux, certains vont même être restaurés à l'époque hein, pour être réutilisés. C'est pas simplement un opportunisme de circonstance, c'est aussi qu'il y a une vraie adhésion à l'art classique, hein, l'art de l'Antiquité classique. Et donc, tous ces marbres antiques qui vont arriver à Pise vont influencer les sculpteurs, comme par exemple Nicola Di Pietro, qu'on va appeler après Nicola Pisano, parce que sur une œuvre qu'il a faite en 1260 à Pise, il a signé Nicola Pisanus, ce qui est devenu Pisano. Hein. Et donc, cette adhésion, elle correspond à ce qui se passe dans les lettres, chez les intellectuels du Moyen-Âge. Je redis encore une nouvelle fois qu'à Chartres, on est bien placé pour le savoir, puisqu'on a parlé d'ailleurs de Renaissance carolingienne d'abord, et puis de Renaissance à la fin du XIe siècle et début du XIIe siècle. À Chartres, ça se traduit par ce qu'on appelait les écoles de Chartres, puisque l'université n'existait pas encore à ce moment-là. Paris va exister après, sous l'influence de Robert de Sorbonne, d'où la Sorbonne. Mais tous les érudits, ce qu'on appellerait aujourd'hui les intellectuels, mot qui n'a aucun sens stricto sensu pour l'époque, on se retourne vers d'abord les fameux arts libéraux dont je crois avoir déjà parlé d'ailleurs, hein, avec Boès. La source, ce sont les grands textes de l'Antiquité. Alors, comme j'ai déjà dû le dire, dans d'autres émissions, y compris quand on a parlé du baroque, c'est une vision parcellaire des textes de l'Antiquité, hein, mais qui nous sont transmis, alors il y a des discussions, mais qui nous ont été transmis soit par le monde arabe, qui a été un véritable conservatoire du patrimoine gréco-latin, mais aussi par Byzance. Hein. Je rappelle que la quatrième croisade en 1204, le pape de l'époque, dont j'ai oublié le nom, il faut mieux. En gros, il dit aux croisés, j'ai pas d'argent pour vous payer. Je caricature à peine, mais je caricature un peu, je rassure les auditeurs. Passez par Byzance et payez-vous sur la bête. Puisque l'Empire romain ne s'est effondré qu'en partie, il y aurait long à dire là-dessus, évidemment, mais il s'est pas effondré partout, puisque l'Empire romain d'Orient existe toujours, et d'ailleurs, il y aura un voyage de l'empereur romain d'Orient à Florence, je vais en parler tout à l'heure, donc c'est bien l'Empire romain.
Et donc, par exemple, ce que vous nous dites, pour reprendre le fil de Pise, c'est que au XIIe siècle à Pise, il y a des sculpteurs, ces sculpteurs-là n'ont en fait connu absolument aucune rupture avec la période classique, même si elle les précède de plusieurs siècles, puisqu'ils réutilisent même les œuvres, voire leur rend hommage, voire les restaure.
Oui, oui.
Donc il n'y a absolument pas de rupture à ce moment-là.
Non, non, non. Et si jamais il y a une rupture, c'est une rupture avec l'époque gothique telle qu'on la conçoit, ou telle qu'elle se passe, par exemple ici, et encore que, même ici, si vous avez la curiosité d'aller voir les statues au portail sud de la cathédrale de Reims, qui est moins important que le portail sud de la cathédrale de Chartres. D'ailleurs, Chartres a trois porches d'égale importance, ce qui est quasiment unique dans l'art médiéval. Mais si vous regardez les sculptures qui se trouvent donc du côté sud de la cathédrale de Reims, et que vous connaissez un peu la statuaire romaine, vous verrez qu'il y a une filiation évidente. Hein. Donc, dire qu'il y a une forme de classicisme par rapport, par exemple, aux statues qu'on voit à Chartres, justement.
Oui, hein. Qui par contre, elle ne se rapproche pas du tout de l'art antique.
Non, hein. Justement. Mm. Et donc, si rupture il y a, c'est justement avec ce moment privilégié de l'histoire de l'art qui correspond à, en gros, première cathédrale à Chartres, pour couronner le cycle, où effectivement, c'est vraiment l'imaginaire médiéval, inspiré essentiellement par les textes sacrés chrétiens, romains, hein, donc l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais on s'aperçoit que là aussi, ce n'est pas aussi simple, puisque les continuateurs de Chartres, ça passe par Amiens et ensuite par Reims, finalement sont sensibles à cet art romain. Je crois même d'ailleurs avoir expliqué déjà que, par exemple, dans des églises comme Paray-le-Monial ou Autun, on trouve des pilastres tout à fait classiques à l'intérieur de la nef qui sont tout à fait de l'Empire romain. Donc, il n'y a pas cette rupture et cette redécouverte de l'Antiquité dont on nous a tant parlé. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est plus intéressant que ça, puisqu'au contraire, il y a une forme de continuité, des filiations qui font que, par exemple, ce qui se passe à Pise n'est pas surprenant. Et d'ailleurs, il y a des précédents. Hein, quand Charlemagne décide de faire construire la chapelle palatine, qui existe toujours, on peut la voir, elle a été restaurée avec des mosaïques qui sont tout à fait récentes, du 19e siècle, mais le volume, le bâtiment lui-même et son volume, est vraiment, c'est la chapelle palatine. Elle est inspirée d'abord, on le voit bien, de San Vital à Ravenne. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que on a les textes, on a des références. Le maître maçon, il serait peut-être abusif de parler d'architecte, mais le maître maçon qui va construire la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, il va aller à Rome chercher des éléments romains, des colonnes qui sont là dans la chapelle palatine, avec l'autorisation du pape de l'époque. Hein.
Est-ce qu'on peut là dire que c'est une forme de retour aux politiques, c'est-à-dire que d'un empire à l'autre, en fait, se réclamer aussi de l'Empire romain, c'était en hériter politiquement, éventuellement.
Bien sûr, ça a toujours... C'est le fait majeur depuis l'Antiquité, c'est-à-dire que dans la partie occidentale de l'ancien Empire romain, ce qui valide, ce qui légitime le pouvoir politique, c'est au fond une romanitas, une rénovation de la romanitas. Hein.
Alors on va faire une petite pause musicale. Je crois que vous voulez nous faire écouter des fantaisies pour lutte.
Oui, de Francesco da Milano, qui est un compositeur pour le luth très, très important de son époque. Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grand Ciel, en compagnie de Philippe Frétinier, qui nous parle des Renaissances. Alors Philippe, vous, juste avant cette pause musicale, vous nous parliez de l'Empire romain, ou plus exactement des empires romains. Et notamment, vous vouliez revenir sur un des éléments politiques, géopolitiques de la continuité en fait, entre la période classique et ce qu'on appelle la Renaissance, simplement parce que l'Empire romain n'a jamais cessé d'exister entre ces deux périodes-là. On l'oublie un peu facilement parce que, pour nous, l'Empire romain, c'est Rome, c'est l'Occident, mais il y a l'Empire d'Orient, bien sûr, qui, lui, voilà, existe toujours.
Voilà. Alors, donc, il y a deux faits majeurs à toujours avoir en tête. C'est que l'effondrement de l'Empire romain n'est pas l'effondrement complet, total. C'est-à-dire que c'est pas le monde au lendemain de la guerre de 14, par exemple, hein, c'est très différent. Et puis, donc, effectivement, il y a toujours eu, d'une certaine façon, il y a toujours eu deux empires. Hein. Pourquoi il y a eu deux empires? Parce qu'il y a deux cultures. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'empire, ça c'est l'Orient, qui parle grec, donc qui pense grec, hein. Alors, je ne vais pas me lancer dans une discussion, parce que ce n'est pas lieu ici, sur ce qui est la parole et la pensée, lequel précède l'autre. Mais l'autre partie, sa partie occidentale, dont nous sommes les fils, parle latin et pense latin. Hein. Donc, ça fait évidemment une différence culturelle, qui fait que les différents religieux qui vont intervenir, notamment le fameux grand schisme de 1054, donc il va y avoir les catholiques romains d'Occident et les catholiques orthodoxes de l'Orient, c'est bien sûr qu'il y a un problème de le problème du primus inter pares, la conception du pape. Bon. Mais au fond, c'est le parachèvement de différences culturelles qui ont toujours été là et de deux parties de l'Empire qui ont cohabité plus ou moins bien suivant les époques.
Oui, un empire très centralisé d'un côté, ouais, donc voilà. Le premier d'entre eux, le pape, on pouvait le comprendre. Du côté oriental, ça a toujours été des alliances de cités, de potentats, parfois regroupées au sein d'une même entité, mais jamais vraiment complètement centralisé.
Et puis, il ne faut pas oublier que, par exemple, il y a eu la tétrarchie à l'époque de Dioclétien, où il y a plusieurs empereurs romains en même temps, et ils se partagent les parties de l'Empire. Donc ça, c'est vraiment important. Et cette séquence-là a quelque chose d'important, parce que, plus que de renouer avec l'Antiquité, ce qui est vrai d'une certaine façon, mais pas de la façon dont on le présente, c'est qu'il y a dans l'Empire romain d'Orient, avec donc la religion orthodoxe, la création de l'icône, dont on voit d'ailleurs des versions dans l'Empire romain d'Occident, mais qui est déjà celui d'après le fameux 4e siècle où Rome se délite, c'est-à-dire la ville de Ravenne, que nous, Chartrains, nous sommes censés un peu connaître, puisque c'est avec Ravenne que nous sommes jumelés, où à Ravenne, la beauté est surtout dans les édifices, moins dans les extérieurs. C'est pas la ville d'Italie qui est la plus belle, mais à l'intérieur, il y a absolument des trésors à Ravenne, et on voit dans l'église Sainte-Apolline, mais aussi le tombeau, le mausolée de Galla Placidia, que j'aime beaucoup, qui est à côté de San Vital, où là aussi, on voit des mosaïques qui sont des mosaïques byzantines. Et ça, c'est par contre l'élément, je dirais presque, de rupture avec ce qui se passe en Occident jusqu'à ce moment-là, parce que la découverte de l'art byzantin, j'en ai déjà un peu parlé quand on a parlé de la peinture, hein, la découverte de l'art byzantin va avoir une influence extrêmement importante, c'est-à-dire l'icône, dans le développement de l'art pictural en Occident.
Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que du côté de l'Empire d'Orient, il n'y a par contre pas du tout à penser l'idée de Renaissance, puisqu'il n'y a pas eu du tout de rupture, au fond, entre l'époque classique.
Mais c'est juste. C'est-à-dire que le monde romain d'Orient est relativement pérenne de ce que nous, on appelle la chute de l'Empire romain, à 1453, qui décidément est une année clé, puisque c'est l'année des sièges des Turcs à Vienne. C'est plus ou moins, c'est un tout petit peu avant, mais l'année de l'invention de l'imprimerie, hein, et c'est l'année de l'effondrement de Byzance.
Oui, donc on peut dire aussi peut-être que notre vision de la Renaissance, telle que souvent vous la dénoncez, ou du moins vous la pondérez, vous la minorez, cette vision de la Renaissance est une vision complètement ethnocentrée ou occidentalo-centrée, quelque chose comme ça, et que ça n'a pas de sens ailleurs.
Non, ça n'a pas de sens ailleurs. D'ailleurs, on peut voir que avec les grandes découvertes et les voyages, en termes d'aujourd'hui, on pourrait dire que ce qu'on va appeler l'art de la Renaissance, l'art des Renaissances, à la fois dans le temps et dans la géographie, ça aurait dû, d'une certaine façon, s'exporter, puisqu'il y a des voyages qui commencent à être importants, les échanges entre l'Europe et le reste du monde, pas seulement le Nouveau Monde, mais aussi l'Orient, hein, et notamment les jésuites qui vont très tôt aller jusqu'en Chine. Et, bon, il n'y a pas de descendance à l'art de la Renaissance en dehors de l'Europe elle-même.
Oui, donc ça c'est une question historiographique aussi, on peut historiographique, c'est-à-dire une manière de dire, d'écrire, de fabriquer l'histoire, de fabriquer le passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tendance plutôt à considérer des histoires plus globales, des histoires plus mondiales, des histoires qui ne restent pas dans notre précaré, on parle de manière un tout petit peu plus large, on essaie d'avoir un regard qui ne vient pas uniquement de nous pour revenir à nous, mais un regard un peu plus vaste. Est-ce que c'est ça aussi la question de la Renaissance telle que vous la contestez? Oui. C'est-à-dire que si on fait de l'histoire plus globale, on ne peut plus parler de Renaissance on l'a fait jusqu'à aujourd'hui.
Absolument. Quoi. Et parce qu'en plus, on a des visions faussées par des événements. Par exemple, tout le monde connaît, je prends des exemples plus parlants directement dans d'autres époques et plus proches de nous, par exemple. Ça c'est un fait bien connu, il suffit d'ailleurs d'aller à Giverny dans la maison de Monet pour le voir. C'est vrai que les impressionnistes vont avoir un tropisme vers l'art japonais, vers les estampes japonaises. Mais vous pouvez remarquer que d'ailleurs, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, quand se produit cette influence de l'art japonais sur les peintres français, l'inverse n'est pas vrai, d'ailleurs. Hein? L'inverse n'est pas vrai. Et c'est exactement ce qui s'est passé auparavant. Et cette vision que, oui, il y a eu des échanges donc, entre l'Europe et le Japon au XIXe siècle, par exemple dans la peinture avec l'estampe japonaise, donc ça laisse supposer que, voilà, avec les voyages, forcément, ça circule dans un sens et dans l'autre. Non. Donc, la Renaissance, du point de vue artistique et du point de vue intellectuel, c'est vraiment une affaire d'Européens, et uniquement d'Européens. Hein. Et d'ailleurs, ça, dans une acception relativement restreinte, c'est-à-dire que ça s'arrête aux frontières de ce qu'est la Russie aujourd'hui. Hein. Parce que la Russie, elle est dans la descendance byzantine pure et simple. Hein. Donc, il n'existe pas, à proprement parler, en dehors de l'art de l'icône, une peinture russe avant finalement l'ère moderne. Hein.
Ce que vous dites là, c'est important aussi, peut-être même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de culture européenne, là, vous dites quelque chose d'une culture européenne, finalement, en parlant de ça. En parlant notamment des arts, de politique d'une part, et des arts d'autre part. C'est-à-dire que l'Europe, telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle peut se revendiquer une culture, au fond, c'est l'Empire romain d'Occident, ça serait ça, pour simplifier à outrance.
Oui. D'ailleurs, c'est bien plus intéressant de parler de l'histoire de l'Europe, parce que, par contre, à l'intérieur de l'Europe, les choses circulent énormément. L'exemple de l'art gothique, entre guillemets, on voit bien que les constructeurs qu'on a appelés opus francigenum à l'époque, c'est-à-dire l'œuvre française ou l'ouvrage français, l'œuvre française, il faut faire attention, hein, parce que c'est d'autres choses. Hein. Donc, Ça va circuler jusqu'à Prague. Dans les dessins de Villard-de-Honnecourt, on a des dessins qui ont été faits à Prague. Enfin, en tout cas, qui montre des choses de Prague. Ça va être l'influence, par exemple, des Clunisiens jusqu'en Pologne, puisque les Clunisiens ont aussi de particulier par rapport aux autres ordres, c'est que ceux qui voulaient devenir moines dans le cadre clunisien, devait forcément, quel que soit l'endroit d'Europe où il vivait, il devait forcément venir à Cluny pour se former, pour être formé, pour leur noviciat. Alors, ce qui explique les dimensions gigantesques de l'abbatiale de Cluny, où ils étaient plusieurs centaines à chanter l'office. Il faut avoir ça en tête. Et donc forcément, quand ils repartaient avec ce qu'ils avaient reçu à Cluny, ici. Hein. Bon, et cette circulation ont été favorisés à la fois par un appétit artistique, intellectuel, par aussi le chaos politique, les invasions des uns des autres, les guerres. Mais très tôt, on voit que, par exemple, l'art roman, c'est pas un art français. On retrouve des églises romanes et des cathédrales romanes en Angleterre. On oublie que le patrimoine des églises romanes espagnoles, encore aujourd'hui, est sûrement supérieur au patrimoine français, qui pourtant est déjà un beau patrimoine. On retrouve des églises romanes en Italie. Ça irradie constamment. C'est-à-dire que cette notion des frontières qui va intervenir par la suite, avec la montée progressive de l'absolutisme, par exemple en France ou en Angleterre, d'une certaine façon, qui sont les deux royaumes les plus anciennement établis, c'est une vision très restreinte de l'histoire et qui bute sur l'époque médiévale où ça n'a pas beaucoup de sens. D'ailleurs, la preuve, en Italie, il n'y a pas d'État, il y a des cités-États, hein, et qui ont des rapports les unes avec les autres, chaotiques, hein. Il y a des guerres, bon, mais Sienne et Florence font la guerre, mais en même temps, il y a des échanges commerciaux. Hein. D'ailleurs, j'ai raconté à propos de Van Eyck que, alors là, on n'est plus dans le Moyen-Âge dur, mais les œuvres de Van Eyck vont circuler parce qu'il y a des marchands italiens qui ont des comptoirs en Flandre, leurs représentants sont émerveillés par la peinture de Van Eyck, ils l'achètent, de Van Eyck et ses contemporains, et puis on retrouve dans l'Italie du XVe siècle des peintres flamands disséminés un peu partout qui vont irradier, inspirer la peinture italienne.
Alors, je crois qu'on arrive au terme de cette émission, qui était un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a peu parlé d'art, enfin vous nous avez peu parlé d'art, très peu, mais d'un contexte, à nouveau, vous l'avez effleuré à plusieurs reprises, mais je crois que c'est important de rappeler que ces dimensions-là, ces dimensions de l'art, ne sont pas autonomes du reste de ce que une société vit. Donc c'était une émission historiographique, on va dire. Merci beaucoup Philippe Frétinier, puis on se retrouve pour la prochaine émission, où nous continuerons à parler certainement des différentes formes artistiques du XVe siècle. À très bientôt.